Bien, ce soir, je vais vous présenter le livre de Ividor et Odile Révérend Coulon. Et d'abord, je tenais à les remercier de m'avoir demandé de présenter ce bel ouvrage. Ividor, donc, docteur en psychologie, formatrice et thérapeute systémique. Elle partage son temps entre la clinique libérale et l'enseignement à l'Université de Bordeaux. Elle est auteure également de livres et d'articles très nombreux, notamment dans le Journal des psychologues, et de plusieurs livres, dont « Famille entre deux cultures » et « La thérapie systémique individuelle ». Odile Révérend Coulon, psychologue clinicienne interculturelle et anthropologue africaniste, elle a été maîtresse de conférences à Bordeaux et chercheure à l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Elle a également co-dirigé plusieurs ouvrages, dont « Pourquoi l'interdit » avec Zora Guéraoui, écrit de multiples articles et chapitres de livres. Voilà, donc nous allons donc parler de « Le migrant et sa famille, défi interculturel en psychologie clinique », qui a été donc édité à ESF des sciences humaines.
Et donc, je voulais te remercier, Claire, d'être là parmi nous. Donc, Claire Mestre, psychiatre, anthropologue et la responsable de la consultation transculturelle au CHU de Bordeaux.
Voilà, donc je vais vous faire un peu une présentation succincte qui posera les grandes questions que j'aimerais poser aux auteurs. Leur dire d'abord que j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. C'est vraiment un livre bien écrit, facile, est vraiment extrêmement intéressant pour les raisons que je vais essayer de vous expliquer. D'abord, un petit mot sur, je dirais, ces deux auteurs que je qualifierais de passeuses et de pionnières dans le domaine de l'interculturel. Qu'elles aient créé ce domaine, mais elles contribuent inlassablement à en approfondir les concepts, mais aussi à le transmettre dans leurs enseignements et leurs recherches. Donc c'est un livre qui est l'écriture, je dirais, d'une pensée intellectuelle et interculturelle à deux voix et à quatre mains, bordée d'un côté par la systémie. On demandera à Ivy de nous la définir pour ceux qui ne seraient pas, qui ne connaîtraient pas, et d'autre part, donc avec une préface de Maurizio Andolfi. Peut-être aussi, on dirait peut-être deux mots, qui est pédopsychiatre et psychothérapeute familial. Et donc c'est quelqu'un, enfin, qui, je pense qu'il y a dû y avoir une certaine importance pour que vous lui ayez demandé la préface. Et l'autre bord, c'est la psychologie interculturelle avec une postface de Gesine Sturm, qui est maîtresse de conférence à l'université de Jean Jaurès de Toulouse. Voilà, donc deux auteurs et une méthode, je dirais, qu'on pourrait dire complémentariste, dans le sens où elle est complémentaire. C'est un dialogue entre Ividor, psychologue systémicienne, et Odile Révérend Coulon, psychologue clinicienne d'inspiration analytique. Donc effectivement, un terreau commun et néanmoins des références complémentaires. Mais on verra que cette méthode, tout au long du livre, est plus qu'un dialogue. Je dirais que c'est une confiance d'abord et une co-réflexion. Issue d'abord d'une histoire commune, puisque je crois savoir qu'Ividor a soutenu sa thèse sous la direction d'Odile, et d'une lecture croisée de matériel clinique, on y reviendra également. Alors, je vais juste dire les grandes qualités pour moi de ce livre, et après peut-être donner la parole à Ivy pour que tu nous dises la systémie. Voilà. Alors, la grande qualité de ce livre est d'être clinique. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on rentre dans le cabinet de Ivy, dans la lecture d'Odile, à partir de l'écoute de personnes. Et donc, les concepts ne sont pas plaqués sur la clinique. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est le contraire. C'est la clinique qui est éclairée par des concepts de psychologie systémique et analytique. Et ceci permet donc d'aborder des situations d'une grande complexité et souvent peu abordé dans les livres d'interculturel ou même enfin surtout effectivement dans la migration, que sont d'abord les transmissions de langue. Donc je vous donne juste les thèmes qui effectivement m'ont peut-être le plus intéressée. Les transmissions de langue, la question du traumatisme, les couples mixtes, les liens fraternels dans la migration, l'adoption. Et donc je dirais qu'il y a beaucoup de liberté à montrer donc sa clinique, l'exposer, mais l'analyser, mais aussi du courage, parce que pour montrer sa clinique, il faut oser d'abord, il faut oser exposer sa pensée, et courage aussi dans le fait qu'effectivement on écrit toujours pour un tiers, et ce sera vous les lecteurs, et une méthode aussi, puisque on y reviendra, Ivy a donné du matériel à Odile pour ce livre. Alors, autre qualité, parce qu'original, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des choses qu'on voit peu, c'est des chercheurs dont on voit effectivement qu'elles sont des nomades et des migrantes elles-mêmes. Soit qu'elles aient elles-mêmes migré, comme Ivy, soit qu'elles aient fait beaucoup de détours, comme Odile, notamment par l'Afrique. Et c'est vrai que l'ouvrage commence par une petite mise en contexte de ce qu'elles sont, de leur propre migration. Migration aussi, donc géographique, mais aussi migration intellectuelle et conceptuelle. Pourquoi ? D'abord parce que les concepts sont issus de domaines psychologiques qu'on a vus différents. Donc, on a vu qu'elles avaient un terreau commun, mais des références qui peuvent être complémentaires. Et donc, elles n'hésitent pas à utiliser des concepts qui vont éclairer justement toute la difficulté de la migration. Donc, j'en citerai une parce qu'elle est effectivement extrêmement intéressante et on leur demandera aussi de nous les développer. Les enveloppes culturelles qui est un concept qui a été développé au début par la psychanalyse et puis aussi beaucoup par l'ethnopsychanalyse. Le voyage des concepts aussi. Alors ça, c'est peut-être le plus original et le plus intéressant, c'est-à-dire l'utilisation de concepts hors de leur lieu de naissance, comme la notion d'exaptation qui est empruntée à la paléontologie. Là aussi, on leur demandera de nous expliquer. Ça, c'est très intéressant. Et puis, d'autres libertés aussi. L'hypothèse de ce que j'appellerais du tiers de la tierce, c'est-à-dire la relation comme tiers de deux personnes, mais aussi la culture comme tiers de ce trio. Autre originalité, la méthode systémique de l'équipe réfléchissante. Là aussi, nous demanderons à nos auteurs de nous l'expliquer. Comme méthode d'écriture, c'est-à-dire que ce n'est pas une méthode, là, pour le coup, clinique ou de supervision, mais c'est utilisé comme une méthode d'écriture et comme une prolongation de la réflexion au-delà de la clinique. Autre originalité, l'appui sur sa propre expérience du détour. Méthode que les anthropologues connaissent bien, et Odile, étant anthropologue, l'a expérimenté en Afrique de l'Ouest. Et l'anthropologie dit les autres révélateurs de soi-même et la distance et le décentrement qui permet aussi la création de l'altérité. Détour aussi géographique, on l'a déjà dit, pour Ivy, qui, bien sûr, a dû s'appuyer sur sa propre migration pour mieux comprendre les patients qu'elle accueillait. Et enfin, autre originalité, l'analogie entre le psychisme et la culture. Alors, je vais m'arrêter là parce que voilà, je vous ai dit en des termes très très ramassés quelles étaient les grandes qualités de ce livre. Et en tous les cas, ça permet d'avoir un regard sur la migration qui est approfondi évidemment, qui est critique aussi, mais qui est aussi un regard positif sur la migration parce qu'on a aussi besoin, surtout maintenant qu'il y a tant de critiques sur la migration en France, d'un regard positif et d'un appel à une société ouverte et multiculturelle, par l'école notamment. Car le message qui est dit dans ce livre avec force, c'est que l'inattention à la culture, par idéologie égalitaire ou ignorance, conduit à l'indifférence, au rejet et à la discrimination, et donc à la violence. Donc, je vais donner la parole à Ivy, qui peut-être la repassera à Odile, ou vous pourrez peut-être développer, définir au moins les concepts que j'ai énoncés pour que notre auditoire ait envie de les approfondir après.
Odile, je ne sais pas si tu es d'accord, je commence par l'approche systémique et Mauluit Sandolfi, et puis je te passe la parole. Oui. Merci d'être venus si nombreux déjà ce soir, avec toute cette pluie, vous avez dû braver le temps et la tempête. Alors, l'approche systémique. Alors, l'approche systémique est un courant en psychologie clinique, en psychiatrie, de la prise en charge du sujet et sa famille, née à Palo Alto dans les années, la fin des années 50, avec l'idée que peut-être le symptôme, la souffrance psychique, n'était pas que le résultat d'une production individuelle du sujet, mais qui était peut-être aussi lié à son histoire, ses relations surtout, et avec peut-être aussi l'idée, peut-être non, certainement l'idée d'une fonction, c'est-à-dire que le symptôme a peut-être une fonction dans le fonctionnement familial, c'est-à-dire dans le faire vivre de la famille. Et donc, dans ce sens, le symptôme n'est pas qu'une production individuelle et donc ne peut pas être soigné que individuellement. La prise en charge systémique du migrant, c'est le résultat pour moi de mon travail de thèse avec Odile Rivéron-Coulon, qui a été la seule à accepter de travailler sur des questions systémiques dans une période où et dans un courant de la psychologie, qui est la psychologie interculturelle, l'ethnopsychanalyse, l'ethnopsychologie, où la prise en charge du migrant est exclusivement psychanalytique. Ma proposition durant ma thèse de doctorat était de dire, et si on utilisait un autre modèle théorique pour appréhender le migrant d'une manière plus familiale, relationnel, en faisant appel, bien sûr, à la migration comme un événement du cycle de vie qui va avoir un effet sur lui, un impact sur lui et sur plusieurs générations. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, de mon point de vue, de penser que la migration s'arrête à celui qui a fait le déplacement migratoire. On n'a jamais fini avec notre migration. C'est des choses qu'on va dire dans ce livre-là. Et puis, l'idée de, grosso modo, je pense que c'était un des premiers ouvrages sur le thème, de première thèse en France sur le thème. En France, après, il est sorti un livre qui s'appelle « Famille entre deux cultures » en 2010. J'ai soutenu ma thèse en 2006. Et dans ce livre, qui était assez original pour l'époque, c'était l'idée de comment utiliser la prise en charge systémique pour le travail avec les migrants et sa famille. Ce livre actuel était donc le résultat de plusieurs conférences pour moi et Odile, avec aussi l'idée de répondre à une demande de nos étudiants sur comment on prend en charge les couples mixtes et les petits-enfants de migrants et les enfants de migrants, avec des questions assez spécifiques et la question de la langue, etc. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer quelque chose d'assez diversifié, assez multiple, à plusieurs niveaux par rapport à cette question de la migration. Et puis, c'est vrai que nous avons toutes les deux cette complémentarité et puis cette confiance dans la manière de travailler ensemble depuis déjà plusieurs années. On se fait confiance et je trouve qu'on s'appuie sur la pensée de l'une et de l'autre pour avancer dans nos réflexions et on ne se freine pas avec des idées de concepts théoriques. Au contraire, on est assez, je trouve, libre dans notre démarche pour profiter des apports de l'une et de l'autre. Alors, Mauluit Sandolfi, qui a fait la préface de ce livre, c'est quand même un grand honneur. Mauluit Sandolfi est un des systémiciens les plus connus mondialement actuellement. Il a été mon professeur il y a quelques années quand je suis partie en Italie faire une formation chez lui. Nous avons gardé des liens très proches pendant toutes ces années. Et puis quand j'ai voulu au départ travailler sur la prise en charge systémique interculturelle, il a été très intéressé par cette proposition. Donc c'était tout naturellement que j'avais envie, et j'ai proposé à Odile qui a immédiatement accepté l'idée que Maurizio Andolfi fasse la préface de ce livre. C'était pas gagné qu'il accepte, parce que comme je vous dis, c'est quelqu'un de très connu dans sa vie. Maintenant, il vit en Australie. Mais c'est quand même pour nous une reconnaissance de la légitimité de ce travail aussi, du point de vue systémique. C'est une signature qui nous fait très plaisir. Et la préface est une préface très, très reconnaissante aussi de ce travail par rapport à la réflexion universitaire, mais aussi clinique, de la prise en charge du migrant et ses descendants et ses ascendants.
Alors, pour ma part, et à partir de ce que vient de dire Ivy, il me semblerait difficile d'être psychologue interculturel sans pouvoir s'intéresser aux approches d'autres nuances dans ce domaine de la psychologie. D'abord, première étape, est que ce que nous apprend les situations interculturelles, c'est justement à pouvoir s'alimenter, enfin c'est pas très joli, mais enfin s'alimenter de réflexions, des expériences des autres. Et là, donc, je me suis trouvée à rencontrer donc Ivy avec toutes ses expériences elle-même de migrante et bien sûr de psychologue clinicienne systémicienne. Alors la systémie, j'avouerai aussi qu'avec ma sensibilité psychanalytique, l'approche systémique d'Ivy et donc de ce qui est présenté dans l'ouvrage ne présente pas pour moi de rupture énorme par rapport à la psychanalyse. On s'appuie sur un certain nombre de concepts fondamentaux identiques, si ce n'est qu'il y a là, dans l'approche systémique telle que l'approche soutenue par Ividor ou par Maurizio Andolfi, une manière de resituer, donc dans notre réflexion, le sujet, la personne. En psychologie, on utilise beaucoup le mot sujet, situer la personne dans un contexte. Dans un contexte, et bien souligner le fait qu'elle n'est pas comme ça en suspens, indépendante, devant mener sa vie toute seule. Elle est vraiment dans des liens extrêmement forts avec son environnement familier ou justement nouveau et étranger. Alors, il y a quelque chose qu'on souligne beaucoup dans l'ouvrage et sur lequel on reviendra, et que nous donne à voir et à penser les migrants, c'est justement qu'il y a un premier ancrage dans la vie d'un sujet, pour tout sujet, c'est vrai, qui migre ou qui migre pas, mais enfin, les migrants le donnent à voir de manière plus explicite, de manière plus contrastée, de manière plus forte, parfois de manière plus violente aussi. C'est-à-dire qu'il y a un premier ancrage, bien sûr, dans l'enfance, dans la famille, dans des savoir-faire, des sensibilités initiales, et tout ce vécu, en raison du voyage migratoire, va être, alors je dirais là, tout à coup remis en question, parce que ce n'est pas tout à fait ça, va être réaménagé, il est questionné, etc., pour que la personne, pour que le migrant puisse s'inscrire dans un nouvel univers. Mais on a de manière très, très explicite, dans la situation migratoire, ce questionnement de à qui j'appartiens, d'où je viens et à qui j'appartiens. Ce qui est, je pense, un questionnement aussi quand même important dans l'approche systémique de resituer la personne dans son groupe, et toutes les questions que cela induit.
Juste pour souligner, moi qui n'ai qu'une formation de systémie, je m'y retrouve totalement en tant qu'anthropologue. Enfin, je veux dire, alors, la question du contexte, de comment... il y a les liens familiaux. Enfin, je dirais que il y a une forme de familiarité Voilà, donc ça, je pense que c'est vrai que ça n'enlève pas justement la question de l'inconscient et pas du tout. Ça complète effectivement tous les liens entre les frères et sœurs. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ton outil permet effectivement de mettre en lumière ce qui, en effet, est peut-être pas forcément approfondi dans d'autres écrits sur la migration. C'est vrai que c'est vraiment intéressant.
Ouais. Tu veux dire un mot sur la confiance ou j'y vais ?
Non.
J'y vais ?
Sur la confiance.
Tu me fais confiance pour le dire ?
Vas-y.
Merci. Bon, oui, ça fait 20 ans que nous travaillons ensemble. Donc 20 ans, c'est quand même aussi une partie de la vie. Hein. C'est une tranche de vie. Nous avons partagé des choses en dehors de notre réflexion théorique et clinique, mais aussi de nos événements de vie, notre période, des étapes du cycle de vie. Et puis, je pense que cette confiance, elle est venue petit à petit. On a appris à travailler ensemble avec des écrits, déjà la thèse, et après des articles écrits toutes les deux. Et puis, des recherches. J'ai fait confiance effectivement dans cet outil, l'équipe réfléchissante, qui est un outil systémique proposé par Philippe Caillé, qu'on a transformé, qu'on a adapté, qu'on a ésapté, pour parler de l'ésaptation, du coup, dans ce livre. C'est l'idée qu'un groupe de collègues participe à côté de la salle d'entretien. Bien sûr, les personnes en entretien, les patients sont au courant. Et ils disent en direct ce qu'ils observent. Ils ne s'adressent pas aux patients, ils ne s'adressent pas aux thérapeutes. Ils disent, nous observons que, dans cette situation, madame est tendue ou monsieur semble en difficulté face à, je ne sais pas, j'invente, aux règles éducatives par rapport à son enfant, etc. Donc, l'idée, c'est que l'équipe réfléchisse et fasse des commentaires sur ce qu'elle observe et que cela, de manière rétroactive, ait des effets sur ce qui se passe en entretien. Bien sûr que tout ça ne se fait pas tous les 4 matins. Vous imaginez mobiliser 4 professionnels en même temps pour faire équipe réfléchissante. C'est vraiment, on le fait beaucoup dans le contexte des formations professionnelles parce que ça forme les professionnels à comment je m'adresse aux personnes, comment je dois dire quelque chose, comment je peux faire pour le dire de manière à ce que ça soit entendable. Ça permet de travailler avec des professionnels en formation la forme de leur expression, etc. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça et qu'il faut trouver un moyen de dire de manière à ce que ce soit entendable, mais aussi par rapport à la temporalité de l'autre. Est-ce qu'il peut comprendre ce que je vais dire là maintenant ? Est-ce que ce n'est pas brutal, etc. Toute cette analyse-là. Donc on utilise beaucoup l'équipe réfléchissante dans le travail de formation, quelquefois dans des colloques, quand on fait des entretiens directs, avec l'autorisation bien entendu des patients. Et là, j'avais envie, par rapport à un accompagnement qui était un de mes premiers accompagnements en thérapie systémique en France, interculturelle en France, j'avais envie de proposer à Odile de regarder ça. C'est-à-dire que ces entretiens, à l'époque, avaient été filmés avec l'accord de la famille. Ils avaient été d'accord pour qu'on utilise, dans le contexte des formations, mais aussi du travail, de la production scientifique, de la production théorique. Et puis, j'ai proposé à Odile de revoir tous ces entretiens et de me dire qu'est-ce qu'elle pensait, quelles pourraient être les remarques pour elle, plus pour le travail avec cette famille, mais pour le travail à venir avec d'autres, pour justement la construction de la réflexion, avec aussi l'idée que c'est le regard d'un anthropologue, d'un psychologue clinicien avec l'expérience interculturelle. Et donc, c'était une expérience unique, inédite. Ce livre a été lu par certains collègues qui ont été préoccupés par cette utilisation. Et puis, nous avons présenté ça de manière très claire et très précise avec toutes les précautions nécessaires. Et les ESF nous ont laissé toute liberté quand même pour travailler des questions que je pense seront très utiles pour les collègues, pour les professionnels, à la lecture justement de ce chapitre sur l'équipe réfléchissante.
Oui, c'est d'autant plus que c'est une situation clinique qui est quand même assez extraordinaire.
Hein, oui.
Avec vraiment une situation multiculturelle pour le coup. On pourrait rentrer dans le détail de la clinique, là on est jusqu'à 22h ce soir, mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, je ne sais pas Yvie, Odile, comment vous est venue l'idée de l'exaptation? D'abord, il faut le définir, parce que moi-même, je me suis dit, oui, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une faute de frappe, je me suis dit, elles ont dû se tromper, et en fait, pas du tout. Et dire aussi, reprendre peut-être les exemples qui ont été donnés dans le livre, parce que c'est effectivement la première fois que j'entendais ce concept-là.
Alors, je dis un mot, Odile, après tu...
Oui, vas-y, sur l'exaptation. je corrigerai s'il y a un truc qui va pas.
Alors, l'exaptation, c'est un concept que j'ai utilisé dans un premier livre qui s'appelle... pas le premier de mes livres, mais dans un livre avant celui-ci qui s'appelle « Thérapie systémique individuelle, une clinique actuelle », parce que la proposition de la prise en charge individuelle, alors que le concept de base, on va dire l'approche théorique de base étant la thérapie familiale, la thérapie systémique familiale, c'était déjà une transformation du concept de base. Et donc, je trouvais que c'était tout à fait cohérent, et Odile, bien sûr, était d'accord avec l'idée, qu'on travaille aussi sur cette question de l'exaptation. C'est un concept qui a été utilisé par les paléontologues déjà au départ, et puis par des biologistes, qui amène l'idée que certains organes, chez certains animaux, spécifiquement des oiseaux, les biologistes ont travaillé sur ça, vont se transformer dans des contextes spécifiques, c'est-à-dire ils ne vont plus avoir le même usage, ils vont pas disparaître, ils vont être transformés d'une manière à s'adapter aux besoins actuels. Et si on transpose ça à la question migratoire, il y a quand même pas mal d'adaptations qui vont avoir lieu chez des sujets que vont devoir transformer leur savoir, leurs compétences, leur incompétence aussi. C'est-à-dire quand on arrive à un pays étranger, il y a quelque chose d'une forme d'incompétence. Certains vont dire « je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne sais pas parler » et qui vont devoir transformer à partir de ce contexte difficile, complexe, leur expérience première pour qu'elles deviennent des expériences utiles. Et ça, on l'observe, on le cite à plusieurs reprises, mais on le cite aussi, par exemple, on observe aussi dans les questions autour du travail. Moi, je cite entre autres l'expérience des professeurs de capoeira. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la capoeira. La capoeira, c'est un art martial brésilien qui est un mélange entre danse, chant, lutte, qui était déjà une exaptation à la base, parce que ce sont les esclaves qui ont développé cet art martial au Brésil, avec l'idée de transformer la danse en lutte, ou de transformer la lutte en danse en fonction de celui qui l'observait. C'est-à-dire qu'entre eux, c'était une manière de s'entraîner à lutter en cas de besoin pour fuguer, pour partir, pour se libérer. Et pour les seigneurs, les seigneurs d'esclaves, ça devait être vu comme une danse, on chante, on s'amuse, etc. Donc c'était déjà une exaptation dans le modèle par rapport à la capoeira. Et puis on observe comment certains vont ici utiliser cette compétence qui au Brésil va être une compétence assez banal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la capoeira et que c'est pas non plus quelque chose de très très reconnu au Brésil, comme quelque chose qui devient un savoir valorisé, reconnu. C'est quelque chose que les autres ne savent pas faire. Et donc, l'étudiant en capoeira ou l'élève capoeira devient maître capoeiriste. Et puis, il doit s'adapter à la demande de l'autre, qui n'est pas exactement à la demande de comment on pourrait faire la capoeira au Brésil. Enfin, il y aura plusieurs exemples comme ça qu'on va observer dans la clinique, de comment le sujet va transformer ces compétences-là et puis l'utiliser d'une autre manière, pas forcément prévue. Et c'est ça l'adaptation, c'est cette capacité créative de transformer.
Oui, c'est vraiment très intéressant. Alors, et tu veux rajouter quelque chose? Et puis alors, beaucoup de choses.
Beaucoup de choses.
Je ne commenterai pas, vas-y.
J'aurais aimé revenir sur le terme culture qu'on employait tout à l'heure, mais on y reviendra après. Là, c'est à propos de transformation et création et adaptation, ce qui me paraît extrêmement important. Alors, certes, l'exaptation, mais aussi, c'est des mécanismes, donc, enfin, qui mobilisent des mécanismes psychiques qui sont extrêmement importants dans les situations migratoires. Alors, il y a un terme que vous rencontrerez dans l'ouvrage fréquemment, c'est le terme interculturation, qui justement me fait penser aussi à ça. C'est-à-dire que c'est un terme qu'on a forgé dans les années 80, voilà, qui a pris place dans notre manière d'analyser les situations migratoires et qui justement insiste sur la nécessité d'aménagement, de transformation et aussi de création. Alors, au passage, je veux quand même insister sur le fait que si dans notre ouvrage on relève les difficultés que peuvent manifester les personnes migrantes, on souligne aussi beaucoup les capacités qu'ils mettent en œuvre pour justement construire quelque chose de nouveau. Et la créativité qui est là mobilisée, dans le meilleur des cas certes, mais finalement dans beaucoup de cas. Et que, comme dans beaucoup de situations, quand on parle de migration, on va surtout parler des situations les plus difficiles ou les plus dérangeantes pour le groupe dit d'accueil, et on en oubliera tous ceux qui auront fait usage de cette capacité à aménager, à construire, à créer à partir de leur histoire première et migratoire. Alors, pour l'exaptation, je vais donner un exemple qu'on retient, qui n'est pas un exemple clinique, parce que dans notre ouvrage, on a et des exemples cliniques et des exemples liés, issus de la recherche. Donc là, et puis parfois des exemples aussi qui sont des exemples de choses qu'on a pu observer de manière plus spontanée. Et je pense à cet autre exemple de personnes migrantes. Je pense à certaines femmes originaires des régions subsahariennes en particulier et qui, se trouvant en France, peut-être dans d'autres pays, ça sera semblable, mais on a toujours tendance, on fait de l'interculturel, mais on parle toujours de la France. Il faut faire très attention à ça aussi. Mais bon, je continue. Donc, en France... Elle trouve, n'ayant pas de formation très élevée, bien que même certaines en aient, mais bon, tout ça étant réduit en raison du changement qu'elles subissent, elles vont trouver un travail, pour certaines d'entre elles, donc dans des institutions d'aide à la personne. Bon. Et dans ces institutions, et en particulier, je pense à un exemple, dans des institutions qui accueillent des personnes âgées. Et dans ces institutions qui accueillent des personnes âgées, il y a parfois des réactions de ces personnes âgées qui ne sont pas toujours aimables avec le personnel, mais peut-être parfois aussi avec certaines personnes de couleur autre que ceux auxquels ils sont habitués. Bon, ça passe inaperçu dans l'institution, on n'en parle jamais, il n'y a pas de travail spécifique mené autour de ça. Donc, ces personnes, ces professionnels qui sont aides-soignantes, aides-infirmières, infirmières et autres, font avec cela. Et, mais à un moment donné, la direction de l'établissement va leur demander de fabriquer un beau jour un repas pour les résidents. Donc, tout à coup, mobilisation générale pour qu'elles fassent quelque chose en lien avec leur culture. Alors, tout à coup, la culture est mise à l'honneur, leur culture. Alors, on leur demande ça. Éventuellement, on leur demande de s'habiller aussi, tout à coup, à l'africaine, entre guillemets. en général aussi, je souligne ça au passage parce qu'on est dans l'interculturel, mais quand on parle de l'Afrique, on dit l'Afrique, savoir que c'est un continent quand même. Bon. Alors donc, on les demande de s'habiller à l'africaine et puis éventuellement d'appeler quelques-unes de leurs copines pour danser quelques danses africaines. Bon. Tout ça étant pris dans les activités ordinaires d'une femme de ménage ou d'une aide-soignante. Et tout à coup, ces personnes se prêtent à ce jeu parce que aussi, il y a un moment où on attire l'attention, on valorise d'une certaine manière leur façon de un certain aspect de leur culture, et surtout, elles vont tirer bénéfice de cela dans la relation avec les résidents, qui vont changer leur point de vue sur ces femmes qui savent faire quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et c'est de ce côté, alors bien sûr, toujours le côté exotique, il faudra reparler de ce terme aussi, côté exotique qui va intéresser, rendre curieux et peut-être aussi permettre un peu plus de dialogue dans certains cas, mais c'est un peu plus compliqué souvent.
Alors, effectivement, en termes de transformation, je voudrais aussi que vous disiez quelques mots sur des transformations qui sont inattendues sur les questions de transmission de langue. Notamment, faites un grand développement sur la langue. Et c'est très intéressant parce qu'on sait que la France est un pays qui s'est construit sur l'unité de sa langue. Il ne faut pas oublier ce passé qui nous pèse, notre histoire qui est vraie pour les langues régionales, mais effectivement pour les langues minoritaires, je dirais dites minoritaires des migrants. Et donc à travers trois générations, vous expliquez bien comment ça donne lieu à des choses complètement inattendues. Je voudrais que vous nous disiez un petit peu.
Tu veux commencer ? Je vais. Oui, c'est vrai qu'il y a une histoire autour des langues en France qui est une histoire où on a pu, par exemple, je pense à justement des recherches menées, mais aussi des rencontres cliniques menées avec des patients qui ont pu exprimer le message impératif de ne parlez pas votre langue à votre enfant parce que sinon elle n'apprendra pas le français. À des parents qui ne savaient pas parler une autre langue que leur langue d'origine dans de nombreux cas. Donc la langue, la transmission de la langue, c'est la transmission des origines, la transmission d'une histoire, d'une culture. Et puis à certains moments, ce n'est pas reconnu par l'autre représentant du pays d'accueil et dans les écoles et dans d'autres lieux sociaux, les institutions d'une manière générale. Là, c'est un aspect, c'est-à-dire que là, c'est une langue qui est empêchée, non reconnue. Et puis, il y a aussi le migrant qui lui-même ne reconnaît pas sa langue comme étant une langue valorisée. C'est-à-dire, toutes les langues ne sont pas valorisées de la même manière. Il y a des langues qui sont très importantes, extrêmement utiles. Et il y a des langues qui sont moins valorisées parce que se dit, mais qui parle Paul dans le monde ? Qui parle anglais dans le monde ? Ça, c'est une évidence qu'il faut en parler. Donc ces langues-là, qui vont être plus valorisées que d'autres, vont être des langues pour lesquelles on va beaucoup plus investir dans la transmission. Et donc maintenant, on ne peut plus dire « votre enfant ne doit pas parler votre langue parce que sinon il n'apprendra pas la langue du pays d'accueil ». Donc on n'entend pas ces choses-là de manière spécifique, comme ça, dite, manifeste, mais on entend un petit message encore aujourd'hui de « mais est-ce que vous avez appris votre langue à votre enfant ?» Parce que vous savez, là, il parle un R qui n'est pas le R qu'il devrait parler. Est-ce que vous pouvez éviter, là, maintenant qu'il est un maternel, qu'il apprend au CP, qu'il apprend à lire, de lui parler dans votre langue d'origine ? Est-ce que vous pouvez éviter de faire les devoirs avec lui ? Parce que comme vous n'écrivez pas bien en français, vous ne pouvez pas l'aider. Enfin, il n'y a plus le message explicite, généraliste, ne parlez pas votre langue, mais il y a quelquefois encore un message subtil qui transmet l'idée que la langue ne doit pas être dite, ne doit pas être énoncée. Et puis, quelquefois, on entend encore aussi l'idée que cette langue ne doit pas être parlée en dehors de la famille. C'est-à-dire que vous pouvez très bien parler votre langue, mais chez vous. J'ai l'expérience personnelle d'avoir chanté des comptines dans les écoles et dans les garderies où mes enfants ont été. Et je trouvais que c'était une expérience extraordinaire de passer à d'autres enfants l'idée d'une langue. Hein. Ce n'était pas pour mes talents de chanteuse, je peux vous garantir. Mais l'idée de qu'ils entendent une autre langue, qu'ils puissent participer à cet exercice-là, d'écoute d'une langue autre. Mais pour mes propres enfants, je trouvais que ça avait été vraiment très riche dans l'idée que cette langue n'est pas qu'une langue privée. Cette langue, elle peut être valorisée parce que du coup... Bah, c'est nous deux qui chantons pour les autres qui veulent apprendre à chanter. Et ça devient quelque chose que tu sais, c'est un savoir que tu as et que d'autres n'ont pas. Et donc, c'est quelque chose qui te met à une place de différent des autres, dans une différence positive, valorisée, reconnue. Peut-être la dernière chose que je dirais sur ce thème, et après Odile qui a écrit aussi plusieurs ouvrages sur ça, sur la langue, des articles et des livres même, c'est ce qu'on a décrit dans le livre, surtout en utilisant comme exemple la migration, l'exil arménien, à partir de l'expérience du travail de transmission entre enfants et petits-enfants de victimes du génocide, comment les langues se transmettaient. Et on observe aussi qu'il y a, dans certaines familles, dans des situations graves de l'horreur, un saut de génération, une connivence entre grands-parents et petits-enfants, qui vont où la transmission de la langue ne se fera pas directement dans vers la génération suivante, mais vers la génération d'après. Hein. On pourra peut-être dire un mot plus tard à ce sujet. Je pense juste rapidement un exemple d'une famille italienne que j'avais rencontrée. Et donc, les parents avaient migré, ils ont eu des enfants en France, et après, donc, ces enfants ont eu des petits-enfants en France. Les parents pouvaient dire, que j'ai rencontré les trois générations, pouvaient dire, nous, on s'était dit, l'Italie est derrière nous, ce qui est devant nous, c'est la France, il faut parler français. Nous, on est préoccupés à apprendre le français, donc on ne veut pas parler italien à nos enfants. On nous a expliqué à l'école que c'était pas bien de parler italien à nos enfants, et donc on essaye de parler français au maximum. Donc c'est quelqu'un qui dit ça, hein. Le fils ne parle pas italien et sa fille se met à apprendre l'italien. Donc la petite fille de ce couple-là. À la question, à votre avis, monsieur, pourquoi votre fille parle italien? Pourquoi elle s'est intéressée à cette langue? Il dit parce que c'est plus facile que l'anglais. Peut-être pas. Hein. Mais que ça? Mais vous ne pensez pas à autre chose? Oui, il faut dire que mes parents lui parlent beaucoup de l'Italie, chose qu'ils n'ont pas fait avec moi. Et les parents de dire, il faut dire qu'elle nous pose beaucoup de questions sur l'Italie, ce que tu ne nous as pas posé. Il y a cette génération du milieu, des enfants de migrants, qui est une génération qui, quelquefois, on peut sacrifier en termes de transmission, parce que la préoccupation de... s'intégrer, trouver des moyens, passer inaperçu, ne pas laisser voir notre différence, va être un impératif, ça va être un désir impérieux entre ces deux générations-là. Les petits-enfants arrivent à une période où tout ça est bien plus posé, bien plus calme, et puis ils peuvent s'autoriser à demander, à questionner, et les grands-parents sont peut-être aussi plus à l'aise à l'idée de raconter et de se raconter à leurs petits-enfants.
Alors, je rebondirais sur le terme transmission, alors justement, pour la langue, mais pour plein d'autres choses. Hein, retenu différentes situations, transmission de la musique, transmission de la cuisine, transmission
De l'histoire.
Alors, fondamentalement aussi, transmission des souvenirs, transmission des affects. Alors, ce qui est important à souligner, c'est peut-être évident aussi en même temps, c'est que la langue, par excellence, ben, c'est quand même un objet intersubjectif entre les personnes. Et par conséquent, c'est porteur d'affects de manière magistrale. Et la langue qui se traduit, j'ose dire, par la parole, c'est-à-dire la façon dont chacun use de la langue, est une objet très très intéressant dans la perspective interculturelle. Justement, ce que soulignait Ivy, c'est retenue, c'est méfiance, c'est interdit de langue, c'est langue soustraite, ou c'est langue quelquefois valorisée, mais dans les situations migratoires, il y a toujours la question qui se pose pour le parent, pour les parents, de savoir quelle langue on va parler, quelle langue on ne parlera pas. On évitera, ou dans quelles circonstances on utilisera telle langue. Il y a aussi les langues, la langue qu'utilisent dans certains cas les parents qui sont, s'ils sont issus de la même culture initiale, qu'ils utilisent à l'insu de leurs enfants, du moins sans l'apprendre à leurs enfants, ou évitant que les enfants ne la comprennent, qui là prend un statut très particulier d'un point de vue psychanalytique, hein, le couple parental possédant la langue et l'enfant étant mis à l'écart de cet échange parental. La langue, donc, faut vraiment souligner cela, c'est pas un moyen technique, ou ça l'est, mais de manière extrêmement secondaire, c'est surtout un support d'affect. Un support d'affect et de pouvoir se dire et dire les choses sont extrêmement importants dans nos démarches cliniques psychologiques, évidemment, la parole étant fondamentale, centrale. Et alors, à ce propos, je veux ajouter l'importance de l'usage des langues dans les situations thérapeutiques et cliniques. Alors, c'est souligné par un certain nombre d'auteurs. Claire a eu d'immenses expériences autour de cela, mais l'importance de la langue pour pouvoir dire quelque chose de soi, ou dans certains cas, ne pas le vouloir aussi. Mais enfin bon, tout ça, alors on en parle dans l'ouvrage, mais il y a beaucoup de choses à dire, à exprimer à travers, à travers la langue, qui est une sorte de la langue est un puissant analyseur du vécu du sujet, de ce qu'il, de sa capacité de raconter, de faire récit, de pouvoir dire quelque chose de lui, des autres, de ceux qui l'ont précédé, et puis donc de pouvoir se remémorer. Alors toute la question de la mémoire par rapport à la langue. On pourrait revenir à la question des traumatismes aussi par la même. Et le fait que la langue, les langues, l'important, c'est la présence des langues. Je crois que c'est ça qu'on doit toujours souligner. Parce que ce qu'on a très peur en général, j'allais dire socialement, politiquement en France, c'est la langue française est essentielle, certes, mais les autres langues, attention, vers quoi allons-nous ? Ce qui est important, me semble-t-il, à l'heure actuelle, c'est le plurilinguisme. C'est, bon, dans le meilleur des cas, le pluri, enfin, ou le bilinguisme. Mais enfin, s'ouvrir à d'autres langues. Et s'ouvrir à d'autres langues, c'est comprendre, c'est élargir son monde aussi. C'est rencontrer d'autres, c'est comprendre d'autres façons de penser aussi. Parce qu'il y a ça aussi, la langue a une dimension subjective, donc propre à l'expérience singulière, marquée des affects de chacun, mais en même temps, cette langue, elle est prise dans une culture. La langue, on ne l'invente pas, elle est fournie par un groupe culturellement marqué. Donc cette langue, on s'y inscrit, mais on va se l'approprier. Et ça, c'est tous les mouvements que l'on va trouver dans les situations migratoires, pour d'autres aspects, hein. On pourrait parler plein d'autres aspects sur l'éducation, sur etc. On hérite de quelque chose, la langue, on hérite de la langue, mais cette langue, donc on va la transmettre, on n'est que passeur de langue, et en même temps, la langue traduit aussi ce que l'on est en tant qu'individu, certes, mais aussi en tant que représentant d'un groupe. Donc ça, tout ça s'entremêle et on essaye, nous ici et là, de le démêler un peu.
Oui, oui, de façon très, très lumineuse. Je voudrais juste vous lire un petit passage qui est en une conclusion, mais je vous disais que les auteurs utilisent l'analogie. Donc elles prennent une phrase de Freud qu'elles vont déplacer. Je trouve ça très, très joli. Je vous le lis. Hein. L'enfant anxieux de se trouver dans l'obscurité du langage, de l'appartenance alors qu'il est à côté de sa mère, d'une mère qui vient d'ailleurs, dit « Mère, parle-moi. J'ai peur. Parle-moi dans ta langue. » « Raconte-toi à moi. »« À quoi cela te servirait-il ? » répond la mère. « Puisque tu ne vois pas mon pays et que tu vis dans un autre pays dans lequel on parle une autre langue. » Ce à quoi l'enfant répondrait. « Il fait plus clair lorsque tu me parles dans ta langue avec ta voix. Cela m'éclaire sur toi, sur moi. Il fait plus clair dans mon identité. » Voilà, c'est magnifique.
Merci, merci Claire. Merci Claire.
C'est vraiment très très beau. Alors oui, la langue, il y a beaucoup de choses. Alors c'est vrai, ce qui est bouleversant, hein, c'est ce que disaient les deux auteurs, c'est-à-dire qu'il y a malgré aussi la question traumatique, puisqu'effectivement il y a tout un chapitre sur le génocide arménien, les petits-enfants vont se réapproprier la langue. Hein, ça c'est très très beau. Et je voulais juste inciter aussi, parce que c'est important pour pour vous, c'est effectivement ce qui fait l'objet aussi d'un chapitre, c'est-à-dire ce que vous appelez les violences invisibles, et ce qu'on pourrait appeler, moi j'appellerais les violences institutionnelles en fait, qui sont violentes malgré elles, c'est-à-dire ce que disait Yvie, c'est-à-dire oui, vous avez quand même un drôle d'accent, c'est-à-dire que ce qui est une particularité deviendrait stigmate. Hein. Et ça, je pense qu'il faudra... Ce livre en donne un bel exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, le français peut se décliner dans plein d'accents différents et plein de façons de parler. N'oublions pas que notre langue, c'est un butin de guerre, hein, disait le poète hein, Kateb Yassine. C'est-à-dire que le français n'appartient pas aux Français. Le français appartient maintenant à plein de gens. Voilà, l'Afrique, les Afriques, le Québec et tant d'autres langues. Ça, c'est vraiment extrêmement important. On a un petit peu de temps ou on peut encore encore une question peut-être.
Oui,
si non, tu veux. Vas-y, fille, tu veux.
Non, je voulais juste dire quelque chose au sujet de la culture parce que ce qu'il disait Odile sur sur la langue, l'idée de la langue incarnée, c'est quand même aussi la même notion pour la culture. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas de culture, on le dit, on l'écrit comme ça. Il n'y a pas de culture flottante. Il y a un sujet qui incarne une culture telle qu'il se la représente, telle qu'il l'a vécue lui. Donc pour comprendre la culture de l'autre, à une période, on pouvait recevoir des commandes de formation de comment font les Algériens face à la perte d'un enfant. Comment font les... je sais pas moi, les Japonais pour face à la séparation de l'endormissement entre les mères et les enfants. Enfin, c'est des demandes auxquelles on ne peut pas répondre et on ne voudrait pas répondre parce que ce qui nous importe, c'est de comprendre la culture telle que l'autre nous la raconte. C'est ça la rencontre interculturelle. C'est aussi de penser à l'autre tel un autre qu'on va découvrir avec une curiosité de son existence, de ses expériences, de sa manière de penser et de faire vivre sa relation en tant que parent, sa relation en tant que conjoint, son histoire, de pouvoir, comment tel qu'il l'incarne, tel qu'il l'a intégré. Parce que sinon, ça devient des généralités qui ne correspondent pas à la réalité du sujet, en fait. Les Brésiliens font comme si, les Portugais sont comme ça. Ça ne parle pas d'un autre, en fait. Ça parle des a priori, des idées reçues, mais ça, ce n'est pas une rencontre, ça. Donc, ce livre est un livre qui est vraiment très préoccupé. En tout cas, on s'intéresse beaucoup à cette notion de rencontre. Pour nous, il est question de rencontre d'un autre.
Alors, juste, je vais vous faire une critique quand même.
Oui, 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 tu peux.
Alors, je trouve que c'est vraiment une critique sévère, hein, tant pis, je me lance. Je trouve que le titre n'est pas à la hauteur de la qualité du livre. Pourquoi ? Parce que le migrant et sa famille, vous avez bien entendu que c'est les migrants et leur famille dans la question de la pluralité. Donc je voulais savoir, oui, comment vous avez fait pour choisir ce titre? Vous étiez d'accord ou vous êtes disputé?
Alors là,
parce que quand même,
nous avons fait plusieurs propositions et l'éditeur a choisi quelque chose qui était...
D'accord, je m'en suis douté que c'était... Parce que c'est...
Autre.
Ouais. J'aime beaucoup ce titre, je sais pas, voilà, moi je défends quand même. J'aime beaucoup l'idée que c'est, le titre doit être lu avec le sous-titre, c'est-à-dire défi interculturel en psychologie clinique. L'idée c'est que ça soit quand même, oui, ça parle du migrant et sa famille. Alors je trouve qu'il y a plusieurs manières aussi de le penser, parce que on ne s'adresse pas... c'est lequel migrant dont on parle, en fait. On ne s'adresse pas aux migrants et sa famille en même temps. C'est quelquefois, on rencontre un migrant et avec lui, on va parler de sa famille. Je trouvais que c'était intéressant, cette idée de se dire que le migrant n'arrive pas forcément avec sa famille. Néanmoins, la question de la famille se pose très, très, très rapidement, parce que ce qu'il disait Odile tout à l'heure, c'est-à-dire en migrant comme en sujet, nous tous, nous sommes les représentants de nos familles d'origine. Hein, vous êtes le représentant de votre famille. Vous, quand vous êtes dans votre chambre à coucher avec votre
conjoint...
C'est
le singulier que j'interrogeais. Ah oui. Parce que, évidemment.
Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, oui. Je me dis, donc je finis ma petite histoire, c'est-à-dire quand vous, j'ai une mauvaise nouvelle ou une très bonne nouvelle pour vous, c'est-à-dire quand vous êtes dans la chambre à coucher avec votre conjoint et votre conjointe, vous n'êtes pas que tous les deux.
Alors voilà, c'est le tiers. Hein,
Alors, la qualité du titre, c'est qu'il est concis. Et, voilà, et un titre, c'est toujours insatisfaisant, moi, je trouve.
Bon, c'est ce que j'avais envie d'entendre ça. C'était insatisfaisant. Il faut aller un peu plus loin, parce que sinon...
Il faut y arriver.
Oui, c'est ça. Quand on est deux, on est quatre, en fait. Hein. Ouais. C'est ça que vous nous
dites. On est plusieurs, même. Bien plus que quatre.
Expliquez-nous ça.
Oui.
On va peut-être...
Juste, je vais ajouter que, justement, dans l'ouvrage, puisque c'est « et sa famille », c'est aussi... nous abordons les questions des couples mixtes culturellement. Hein, nous abordons ces questions-là. Nous abordons aussi la question des fratries, aussi, dans les situations migratoires. Et puis, bien évidemment, on a entendu un peu tout à l'heure, sur ces questions d'héritage pour les enfants. Et l'héritage d'une migration parentale va impacter le vécu donc actuel et ensuite, bien sûr, des enfants qui grandiront, qui transmettront à leurs propres enfants. C'est pas, la migration n'est jamais neutre, ce n'est jamais banal. Quelque chose d'extrêmement mobilisateur, de mécanismes psychologiques, relationnels, extrêmement intenses. Et pour le dire aussi encore à propos d'une autre dimension dans notre ouvrage, c'est que l'on a travaillé sur la question du retour, des retours souvent... Enfin, nous avons travaillé plus particulièrement avec la question des retours que se posaient ou que mettaient en œuvre les enfants de migrants. Et donc, ça, c'est encore une autre dimension qui montre combien la migration parentale n'est pas simplement résolue au bout de quelques années, ils se sont adaptés et puis c'est tout. Ça travaille tout le temps le groupe familial et ça se réorganise autour de ce thème de la migration, mais qui peut être répété par la génération suivante ou la génération alternée, donc la génération qui saute une génération, qui va reprendre en quelque sorte en main la langue dans une sorte, moi je nomme, retour de langue, c'est la réutilisation d'une langue qui a été soustraite.
Alors on pourrait finir sur cette belle idée hein, d'une migration qui ne s'interrompt pas, c'est-à-dire c'est important ça, parce qu'on est dans un... En France, où l'idée qu'il faut fermer les frontières, et on n'y arrive pas. Hein. Il y a un très bel article de Hachine Bembe dans le dernier Courrier international où il dit si on ferme vraiment les frontières, alors on va tuer des millions de gens. C'est pas possible. On fige quelque chose qui n'est pas destiné à être figé. Donc effectivement, les migrations, ça va dans un sens, ça va dans l'autre, ça va dans tous les sens. Et que ce sont des belles choses qui, en tous les cas, qui sont des mouvements créateurs. Voilà.
Merci. Merci.